au nombre de 7 ces études, Gérard Granel, que vous avez regroupées sous le titre « Études » au pluriel chez Galilée. Les trois premières sont regroupées sous un même titre, « Les maîtres », et concernent successivement Jean Toussaint de Santy, Heidegger et Lacan. Et puis, on peut se demander le titre, pourquoi vous l'avez choisi? Est-ce que c'est par référence à vos chères études ou bien par référence à la peinture?
Plutôt par référence à la peinture, ne serait-ce que parce que je n'ai jamais été, hélas, l'élève de Santy, par exemple. J'aime bien que c'eût été possible par les dates, ni un disciple à l'époque de Lacan. Donc en effet, ce sont les maîtres qu'on se choisit. Ce sont les ateliers dans lesquels on aime entrer et auxquels on croit comprendre quelque chose.
Chacun de ces textes est autonome. Ce ne sont pas à chaque fois une partie d'un ensemble. Cependant, quand on a lu l'ensemble des études, on voit qu'ils sont liés par quelque chose d'essentiel, sans doute une même manière de voir, une même question qui les traverse, l'être-monde du monde.
Oui. La formule elle-même n'est pas de moi, elle est dans l'être et le temps, c'est pas die Weltlichkeit der Welt. Je l'ai reprise parce que je crois que toute pensée contemporaine est commandée par ce qui fait de notre monde le monde qu'il est, c'est-à-dire par la production. C'est pourquoi il y a par exemple un aspect, sinon politique, du moins archi-politique, et un titre qui a l'air provocateur, les années 30 sont devant nous, juste après les trois maîtres que vous avez nommés. Et c'était déjà en train depuis très longtemps, ça, depuis un texte qui n'était pas d'auto-justification, mais d'explication, qui s'appelait « Pourquoi avons-nous publié cela ?», qui est l'un des tout premiers textes que nous avons publié à TER. Premier bouquin de moi s'appelle « De l'université », horriblement mal publié, parce qu'on ne savait pas à l'époque faire ce métier. Mais où j'expliquais pourquoi j'avais publié et publié en bilingue le fameux discours de rectorat. Donc ça remonte déjà aux années 76-80. Et puis ce thème de la production, de l'entrecroisement du capital et de la technique moderne, comprise dans son essence pour jargonner des carrières, n'a fait, à mon avis, que prouver sa pertinence à peu près dans tous les domaines. Devenir de l'université, dont vous parliez avec Daniel Salnav l'autre jour, ou ailleurs. Alors c'est ça le monde dont il s'agit. De quoi notre monde est-il le monde? Réponse, il est le monde de la production, compris comme l'entrecroisement de la richesse et de l'essence de la technique. Et tout le reste peut graver. Soit comme les enfants irakiens, un coup d'embargo, soit comme les bosniaques qu'on a laissé graver avant que les Américains s'en mêlent. Et peu importe.
Alors c'est étrange que vous ayez ouvert ce livre par une partie intitulée « Les maîtres », parce qu'aujourd'hui, on nous rebat assez les oreilles sur le thème « Il n'y a plus de maîtres ». Et en tout cas, plus de maîtres à penser.
Oui, parce que « maître à penser », c'est une expression, je ne dirais pas médiatique à ce micro, parce que je ne veux pas être insolent, c'est une expression culturelle.
Encore des maîtres, et nous en avons besoin.
Il y a des maîtres, oui. Le maître à penser, c'est très mauvais, parce que c'est l'endoctrinement, c'est la... Ça existe, il y a des gens qui ont fait de Heidegger leur maître à penser. Ce qu'on appelle entre nous gentiment la chapelle. Je me suis fâché que je vous le dis tout de suite. Je pense qu'Heidegger ne leur appartient pas.
Vous n'aimez pas les maîtres de chapelle?
Voilà, je n'aime pas les maîtres de chapelle, sauf en musique.
On découvre.
Il y a des maîtres, c'est-à-dire des profs, et puis des gens qui ont une maîtrise de l'écriture et du questionnement, ça se paraît aussi évident en philosophie qu'en peinture, ou en musique.
Exemple, Jean Toussaint de Santi.
Exemple de Santi.
Que vous avez lu, confiez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça.
Non, très tardivement. Et il est évident que ce qui m'avait éloigné de lui, c'était qu'il était à l'époque un sale, comme on disait. Et ça n'empêchait pas d'avoir de l'estime pour les uns ou les autres. J'ai toujours eu de l'estime pour Althusser, pendant qu'il était un caïman merveilleux. J'étais caïman quand j'étais à l'école. Mais c'est l'homme qui nous a écartés de Marx, enfin. Et c'est ça qui est extraordinaire. Bien, malgré son pour Marx, de la même façon, tous les staliniens ne les lisaient pas. En ce qui concerne De Santi, on avait tort. Bon, je m'en suis rendu compte très tard, grâce à ce merveilleux bouquin qui s'appelle Un destin philosophique, qui m'a fait revenir à la philosophie silencieuse. Alors voilà, enfin, par exemple, une philosophie des sciences qui ne court, où la pensée ne court pas derrière les sciences, comme dans l'épistémologie habituelle. Voilà un sens de l'éthique qui ne donne pas dans le moralisme, voilà une analyse politique qui ne rabâche pas pour la 200e fois sur un Walter Benjamin et la 365e fois sur un Arendt. Tout à fait remarquable de Santi. Ce jeune auteur ira loin.
L'expérience éthique, l'entrée en éthique, pour vous, c'est l'événement fondamental qu'on rencontre dans son œuvre.
Je pense, oui.
Ce qu'il appelle le signal.
Il appelle le signal, oui.
Un mot qui, évidemment, il faut prendre d'une manière particulière.
Oui, bien sûr, c'est pas un terme de codage. Tout ça est dit dans le bouquin, si je puis dire. Mais ça m'a fait penser irrésistiblement à une transposition cinématographique, à quelque chose comme Chaplin, enfin, qui lève un chiffon rouge perdu par un camion et qui déclenche la révolution. La manif qui arrive derrière, là, emboîte le pas, se gonfle et devient comme ça, sûre d'elle-même. Donc c'est le signal en ce sens-là. Il y a des moments, des choses peut-être très fragmentaires, comme le sourire du pirate dans sa jeunesse. Là, je vous répète un peu ce que j'ai écrit, malheureusement.
Ah, mais attendez, parce qu'on ne l'a pas tous lu encore.
Ah oui.
Ça va venir, mais pour l'instant...
C'est vrai, c'est pour ça qu'on est là. Ou bien comme cette vision insoutenable des enfants juifs le 2, je sais plus, juillet ou août 42 sur la place du Panthéon. Alors là, un monde bascule. Enfin, c'est toujours pour ça que c'est toujours une question du monde. C'est vrai que le monde se décolore comme s'il passait en noir et blanc. Comme un film, il passerait brusquement en noir et blanc. Ça n'a plus du tout. D'où le déclenchement d'une action obstinée. Aller chercher une arme. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que la domination donc du capital et de la technique entrecroisée est soft. Alors, elle donne pas, apparemment pas de signaux. Quoique, bon, si on sait faire quelques rapprochements, on devrait tout de même trouver des signes. Mais pas de signaux à proprement parler. Ce qui fait qu'elle est à l'aise dans ses habits démocratiques, ses moraux. Et qu'on ne voit pas du tout comment ce monde pourrait s'effondrer. Encore que j'ai respiré au mois de décembre. Dernier, je dois le dire. Bien sûr, ça ne peut aller nulle part, parce qu'il faudrait que ça débouche sur une révolution, et c'est hors de question, pour l'instant. Mais ça, c'est comme Mourouroi. Combien de secousses faut-il pour secouer la tôle de l'évidence? J'en sais rien.
Le monde est soft.
Le monde est soft.
Mais l'écriture des philosophes, c'est le seul lieu qui recèle des chocs possibles.
Oh, je ne crois pas. Pourquoi pas l'écriture tout court, enfin, celle des écrivains, des novelistes. Non, je ne pense pas du tout. La façon de faire un film, une mise en scène, enfin, il y a... en revanche, le phénomène commun, c'est le choc. C'est vrai. Dans la philosophie elle-même peut être maniée de la façon la plus bénigne possible, généralement ainsi qu'elle l'est aujourd'hui, je dois dire, soit chez les scientifiques, enfin scientistes plutôt, soit chez les spiritualistes. De philosophie qui fasse choc, hein, j'en connais pas beaucoup.
Heidegger ?
Oui, mais ça, bon, il y a bien longtemps. Hein. Et puis alors, en plus, maintenant, on a trouvé le moyen d'éviter le choc qu'il fait, c'est de se choquer de sa période nazie, par conséquent, oui. Et de laisser entendre par un moyen ou par un autre que toute sa pensée était promise à cette compromission, et que par conséquent, il faut surtout pas y aller. Hein. Bon, là-dessus, moi, je me suis expliqué plusieurs fois par ouvrir ce dossier qui vraiment s'en rend, hein, sans minimiser du tout cette énorme bourde, enfin, et la responsabilité d'une pensée dans cette affaire, bien entendu, mais je ne crois pas une seconde qu'on puisse réduire Heidegger à cet épisode. Alors, qu'est-ce qui choque aujourd'hui à peu près plus personne, hein? Je dirais Wittgenstein, en France, enfin. Je ne sais pas si c'est parce que nous l'avons introduit. En réalité, les premiers introducteurs, c'était évidemment Granger, hein, traducteur du Tractatus, et des carnets chez Gallimard, et puis c'était Bouvresse qui était le porte-drapeau en Sorbonne de la pensée wittgensteinienne. Seulement, surtout Granger, je dois dire, qui a quand même une autorité plus grande que Bouvresse à l'époque, et même maintenant, et il a importé le Wittgenstein anglo-saxon, c'est-à-dire la querelle avec René, enfin, les divergences avec Russell, avec Frege, la logique. Mais il y a bien autre chose dans Wittgenstein. Le second Wittgenstein, comme on dit, est une richesse justement éthique, mais aussi tout simplement critique, d'une générosité de pensée extraordinaire, d'une finesse étonnante. C'est évidemment génial. Alors ça, il choque. Et de la bonne époque, l'époque des surréalistes, ça tape.
Je disais qu'il y avait un troisième maître dans cette première partie de votre livre, Gérard Granel, c'est Lacan.
Oui.
Mais Lacan, vous ne lui réservez pas un sort particulier, puisque vous l'évoquez dans un chapitre commun Lacan à Heidegger.
Parce qu'il s'agissait d'une intervention dans un colloque. De quoi ? De l'UNESCO, si je me souviens bien, qui s'appelait Lacan avec les philosophes. Alors, on m'avait confié le Lacan avec Heidegger, se transformé en « et ». Bon, c'est tout. À part ça, je ne connais pas Lacan. Hein. Je vais le dire aussi sec. Chaque fois que je dis ça un psychanalyste, ils ont lu ça, ils me disent « Oh, pas de coquetterie, vous le connaissez dans les coins, on vous a lu. » C'est pas vrai. J'ai mis ce qui m'intéressait, mais Lacan, il faut 20 ans. Heidegger, je connais. Descartes, un petit peu. Lacan. Ça a été une traversée éblouie. Je sais pas pourquoi on le trouve exaspérant. C'est vrai qu'il fait exprès d'exaspérer, mais c'est tellement évident que le jeu, c'est au contraire de déjouer cette espèce d'aspérité permanente de la phrase pas possible. Et on y trouve des pensées lumineuses, il n'y a aucun doute.
Lacan, analyste de la civilisation occidentale.
Oui, ça c'est ce qui en un sens le rapproche de la question historiale chez Heidegger, et au fond, de façon très proche. Et puis aussi la critique permanente de Fustin, de la conscience au profit de quelque chose d'autre. Enfin, ça s'appelle l'être là chez Heidegger, ça s'appelle, je sais pas moi, le ça chez Lacan. Mais ce sont des gens dont la pensée excède le maître mot de la métaphysique moderne, c'est la subjectivité. Quand j'ai découvert qu'on pouvait parler de la psyché en évitant la subjectivité, j'étais ravi. C'était Lacan. Mais j'y connais rien, je souligne. Thank you.